EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks, bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Alain-Patrick Tsengue qui nous vient de Paris. Bonjour pasteur Alain.
Bonjour pasteur Joël.
Gloire à Dieu. Cette semaine, nous parlons en fait de la croissance spirituelle et ce qui peut nous empêcher de grandir dans les voies de Dieu. C'est bon pour le chrétien et pour le pasteur aussi qui veut voir une
son
croissance.
Son église grandir, oui.
Exactement. Donc, dans son ministère. Alléluia pour ça. Aujourd'hui, on va parler de la séduction spirituelle. Ouais, et tu veux en fait préciser, pasteur Alain, qu'on ne parle pas ici de séduction sexuelle.
Parce que
des fois, les gens s'imaginent, si je suis séduit, c'est forcément dans le monde spirituel, sexuel. Mais non, la séduction, ça peut être à plein de niveaux, surtout théologique.
C'est ça. Oui. On ne parle pas de la séduction sexuelle dans l'Église. Ce n'est pas de ça dont on parle. Parce que certaines personnes, en voyant le mot séduction, ils l'associent systématiquement au sexe et le mot spirituel à l'Église. Donc, ils peuvent dire qu'on va parler de la séduction sexuelle dans l'Église, mais ce n'est pas de ça dont nous parlons. Parce que la séduction spirituelle, en fait, ce sont des mensonges du diable pour faire croire que c'est Dieu qui agit, qui parle, ou pour même faire croire qu'une doctrine est divine, est de Dieu. Donc, la séduction peut être au niveau des expériences spirituelles que certains chrétiens vont vivre, mais elle peut être aussi au niveau des faux enseignements, des fausses doctrines qui sont enseignées, des hérésies qui sont enseignées. Mais là, on va parler des fausses expériences spirituelles parce que ces expériences peuvent empêcher la croissance d'un chrétien et bloquer même la croissance d'une église. Nous sommes dans la série de la force des forces anti-croissance. Il y a des esprits derrière qui peuvent passer à la vitesse supérieure et empêcher quelqu'un de grandir. Et comment ils vont agir? Bon, en parlant déjà des esprits qui vont empêcher une église de croître. Je me rappelle que à un moment donné, mon église avait été attaquée de façon un peu bizarre et on a réussi à protéger l'église. Et le diable est passé à la vitesse supérieure parce que il envoyait des sortes d'oppressions démoniaques chez certaines brebis de l'église qui entendaient des voix. Vraiment des voix, et les voix leur donnaient des informations soi-disant sur l'église mais qui étaient totalement fausses et qui étaient complètement à côté de la plaque. Et un jour, un frère est venu me voir, il me dit, pasteur, je quitte l'église parce que j'ai entendu Dieu me parler. J'ai dit, et Dieu t'a dit quoi? Et là, il me dit ce que Dieu lui dit, son Dieu lui dit. Je lui dis, non, c'est pas Dieu qui t'a parlé parce que ce n'est pas la vérité. Et il me disait quelque chose qui ressemble vraiment à comme si moi, j'étais en fait un japonais et que mes parents étaient japonais. Et
c'était
que
tellement
j'ai toujours
loin de la vérité.
C'était tellement loin de la vérité. Tellement loin de la vérité. Et il me dit, non, je sais que c'est la vérité parce que j'ai entendu audiblement pendant que j'étais en train de prier. À beau lui dire que ce n'était pas Dieu, le frère ne m'a pas écouté. Il a quand même quitté l'église. Il est allé, soi-disant, faire son église. Ça n'a jamais marché. Et aujourd'hui, il est perdu dans la nature. À un moment donné, quand vous êtes pasteur, sachez que le diable va passer à la vitesse supérieure en envoyant carrément ses démons pour oppresser vos brebis. Maintenant, lorsque vous êtes chrétien, sachez aussi que vous pouvez être victime de séduction spirituelle. Vous devez savoir comment discerner cette séduction spirituelle.
C'est très important parce que, bon, quand tu as reçu en fait des fausses accusations, on doit se poser la question, là, en fait. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que Satan est l'accusateur des frères.
C'est ça.
Donc, le diable peut justement envoyer des accusations pour dénigrer un homme de Dieu. Parce que si un homme de Dieu est comme assassiné dans son caractère, bien ceux qui sont influencés par ton ministère, par exemple, ces gens-là peuvent être éparpillés. Et puis vraiment, c'est ça que le diable veut faire.
Il veut
détruire des réputations pour détruire des brebis.
Exactement.
Ça fait du sens, en fait. Le diable n'est pas fou. Hein?
Il n'est pas fou.
Il veut détruire l'œuvre de Dieu. Donc, il va forcément attaquer des hommes de Dieu. Ici, c'est une personne qui a entendu des paroles audiblement. Là. Mais aussi, des gens peuvent juste être inspirés par bon, leur raisonnement, leur jugement personnel, soi-disant le discernement ou le don de discerner les esprits. Mm. Mais en fait, le don de discerner les esprits, Pasteur Alain, selon toi, est-ce que c'est le don de juger notre prochain ou c'est plutôt la capacité de voir dans le monde spirituel?
C'est la capacité de voir dans le monde spirituel. Ce n'est pas la capacité de venir dans un endroit et de voir tous les défauts de l'endroit. Mm. Et parfois, il y a des personnes qui prétendent, en venant dans nos églises, qui prétendent qu'elles ont le don de discernement des esprits. Elles commencent à dire tous les problèmes qu'il y a dans l'église. Et parfois, c'est les problèmes dont nous sommes au courant et on cherche des solutions. Voyez-vous, quelqu'un qui vient me révéler des problèmes sans me donner des solutions ou sans être celui qui a la solution, moi, je n'ai pas envie de l'entendre parce qu'on a déjà fait le tour de notre église et on connaît les défis que l'église rencontre. On aimerait plutôt avoir des solutions. Donc, on ne parle pas de ça, en fait. On parle, lorsqu'on parle de don de discernement des esprits, on parle de la capacité de voir le monde spirituel.
C'est ça.
Et pas que les démons, s'il vous plaît. Mm-hmm. Pas que les démons.
C'est ça, exactement.
Le don de discernement des esprits nous permet aussi de voir des anges.
Amen, amen. Mm-hmm. C'est ça, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, nous lisons, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Mm-hmm. Donc, le diable peut vraiment inspirer des mensonges.
C'est ça, exactement.
Simplement parce que Satan est le père du mensonge.
Exactement.
Donc, c'est ça la séduction, en fait, c'est de croire, en fait, que le mensonge est la vérité.
La vérité.
En fait, c'est ça.
Exactement.
Donc, c'est hyper important pour nous d'être dans le discernement spirituel.
Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'une expérience spirituelle est spectaculaire que ça veut dire forcément qu'elle vient de Dieu.
Mm-hmm.
C'est important de comprendre ça. Les expériences spirituelles sont surnaturelles, mais pas forcément spectaculaires. Si une expérience spirituelle est spectaculaire, c'est très bien. Ça peut arriver. La Bible nous parle des expériences spirituelles spectaculaires, vous comprenez? Mais on ne peut pas juger de la véracité d'une expérience juste parce que c'est spectaculaire.
C'est ça.
Il faut qu'on voit les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent de ça? Si votre expérience n'est pas en accord avec les Écritures, je suis désolé. Vous pouvez avoir vu un ange, vous pouvez avoir vu un Jésus, venez vous parler de ça. Mais si ce n'est pas en accord avec les Écritures, c'est à balancer.
Exactement. Dans Galates 1:8, en fait, nous disons, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou maudit. Donc, on doit toujours revenir à la parole de Dieu pour juger les expériences spirituelles ou juger les enseignements. Donc, est-ce que c'est biblique? Oui ou non? Par contre, Pasteur Alain, il y a des gens qui n'ont pas une pleine révélation de la parole de Dieu.
Mm-hmm.
Donc, ils peuvent dire, ah, bien, ça, c'est pas de Dieu. Et souvent, les chrétiens sont comme ça.
C'est vrai.
Ils jugent rapidement. Ah, ça, c'est pas
vrai,
de Dieu. J'ai vu la personne tomber par terre.
C'est
c'est pas de Dieu parce
vrai,
que Dieu
vrai.
Ne ferait jamais tomber une personne par terre.
C'est ça.
Donc, faut faire attention aussi. Hein.
C'est ça.
Je pense que le nombre de conseillers spirituels autour de nous peuvent nous aider à comprendre certaines choses. Parce que Dieu peut nous surprendre. Par exemple, en 2004, j'ai vécu quelque chose de surnaturel, spectaculaire. Et c'était biblique parce qu'on voit que l'apôtre Paul a vécu une chose semblable.
Ouais,
l'apôtre Jean également tombé en extase. Et on voit des fruits. Après
exactement.
Ça. Donc, en 2004, pour moi, ça concernait en fait le peuple francophone.
Exactement.
Et depuis, bien le Seigneur a ouvert des portes pour que je fasse le ministère auprès des francophones.
Mm.
Donc, on voit le résultat suite à cette visitation-là. Mais quelqu'un qui dit, bon, bref, vit une expérience et là, après, ça semble douteux par peut-être même les révélations reçues au moment
parce qu'il ne comprend pas, parce que justement, il n'a pas la pleine révélation de la parole. Ça,
c'est aussi important.
C'est vraiment bien d'équilibrer ce qu'on dit parce qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui peuvent tordre ce que nous disons et prendre juste une partie et en faire des demi-vérités. Voilà, on n'a pas dit que les expériences spectaculaires sont mauvaises. On a dit qu'il faut qu'elles soient en accord avec les Écritures. Et il y a beaucoup d'expériences spirituelles parfois qui sont dans les Écritures que certaines personnes ne comprennent pas et décrivent. Et parfois même qu'ils décrivent comme étant de la séduction spirituelle alors que ce n'est pas de la séduction spirituelle. Quand vous lisez la parole de Dieu, nous voyons des extases, nous voyons des visions, nous voyons pas mal de choses. Et ça, c'est vrai qu'on doit être vraiment averti dessus. Les personnes, j'ai remarqué avec ma petite expérience de pasteur, aujourd'hui ça fait 15 ans que je suis pasteur des églises, j'ai remarqué que les chrétiens les plus vulnérables à la séduction spirituelle, j'ai remarqué 3 catégories. La première catégorie, ce sont les chrétiens en fait qui ont vécu des expériences métaphysiques avant de se convertir.
Mm-hmm.
C'est des personnes qui étaient dans parfois des sciences occultes ou dans le bouddhisme, dans toutes ces choses-là, qui des sciences occultes, quand elles se convertissent, leur intelligence n'est pas encore renouvelée, donc elles sont parfois à la quête des expériences extrasensorielles qu'elles vivaient à l'époque. Et donc, le diable, sachant cela, va leur faire vivre des choses et ils vont croire que ce sont des expériences divines, alors que ce ne sont pas des expériences divines. Je me rappelle d'un chrétien à qui on demandait de nous expliquer comment il faisait pour prier. Il venait de se convertir, tout ça. Et puis, il nous posait des questions sur la prière. Et on lui dit, mais toi, tu pries comment? Il dit, en fait, moi, quand je prie, je me mets en position lotus. Hein, je pense que c'est cette position-là. Il plie les pieds d'une certaine façon. Il dit, je me mets en position lotus et j'attends la lumière cosmique de mon Père céleste à bas. Tout un mélange. C'est à la limite de la folie un tout petit peu. Et on a compris que le frère était complètement dans une confusion, dans une séduction terrible. Et on lui a fait comprendre que non, les positions pour plier dont la Bible parle, il y a se mettre à genoux, se coucher, machin, tout ça, mais position lotus, non, il faut faire vraiment attention. Et lorsque, généralement, ils viennent de se convertir, parfois, tout ce qui a Dieu à l'intérieur, il s'empresse à s'engager à l'intérieur, même si c'est des sujets de sectes pernicieuses, des choses de ce genre. Ça, c'est le premier type de chrétien que j'ai remarqué.
Et je veux juste dire une chose, ouvrir
vas-y, parenthèse. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie.
Parce que cette personne a vécu le surnaturel avant de connaître Christ.
C'est ça.
Et souvent, quand cette personne devient enfant de Dieu, il se retrouve dans une église où il y a zéro puissance.
C'est ça.
Et puis, on a dit, bien, maintenant, la vie chrétienne, c'est uniquement l'étude d'un livre. Et ce livre est surnaturel et on devrait vivre le surnaturel aujourd'hui.
C'est ça.
Donc, on est un peu en tort, en fait, nous, dans le corps de Christ, si on ne vit pas pleinement la puissance de Dieu dans nos cultes, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui a vécu le surnaturel, après, il est insatisfait de devenir uniquement rationnel, intellectuel, parce que Dieu ne nous présente pas la vie chrétienne comme étant juste une vie comme à l'école. On est supposé de vivre la vie chrétienne et avec plus de puissance que le royaume des ténèbres, mais dans la gloire.
Exactement.
Donc, je comprends aussi une personne qui pourrait être séduite comme ça aussi.
Exactement. La deuxième catégorie, en fait, ce sont des chrétiens qui viennent de se convertir et ils veulent grandir vraiment vite avec Dieu. Et parfois, ils grandissent vraiment vite avec Dieu. Et c'est des chrétiens que généralement, le pasteur va vraiment apprécier parce qu'il aime Dieu, il prie beaucoup, il veut avancer, il a soif, mais il est immature. Et parfois, il lit même dans la parole de Dieu, il voit certaines expériences spirituelles dans la parole de Dieu et il veut les vivre. Et parfois, il veut griller certaines étapes. Le problème, c'est que s'il n'est pas correctement enseigné, le diable va passer par là pour le séduire spirituellement parce que il n'a pas la maturité de reconnaître le diable qui se déguise en ange de lumière. Parfois, il faut un certain niveau de maturité pour pouvoir discerner une action diabolique. Et parfois même, il faut porter un certain manteau. Je me suis toujours demandé pourquoi le sorcier qui était à côté de Philippe lorsque Philippe était en Samarie, pourquoi Philippe n'a pas réussi à reconnaître qu'il était sorcier? Pourquoi l'apôtre Paul a su reconnaître? L'apôtre Paul n'avait pas le même grade que Philippe. Et l'apôtre Paul était un peu, l'apôtre Pierre plutôt, n'avait pas le même grade que Philippe. L'apôtre Pierre était un peu plus entraîné et plus mature que Philippe pour reconnaître que le monsieur qui était à côté, c'était un sorcier. Et lorsqu'on est jeune spirituellement et qu'on veut grandir avec Dieu et qu'on a la recherche même des expériences spirituelles, le diable voit ça. Et il peut nous provoquer des expériences spirituelles pour nous séduire et nous éloigner de Dieu et nous éloigner de l'Église. J'ai des témoignages, mais époustouflants là-dessus. Pasteur, je suis un jour en train de prêcher. Pendant que je prêche, la puissance de Dieu descend dans la salle. Vous sentez l'atmosphère changer. On était à Rennes et j'avais une seule église à l'époque. Et là, je passe seulement, quand je passe, je frôle à peine une jeune fille qui est juste à côté. Elle tombe et elle se met à rouler comme un serpent. Et pasteur, c'était pas une fille typée, c'était une autochtone, c'était une bretonne aux yeux bleus. Elle est tombée, elle a commencé à rouler comme un serpent. Et on a prié pour elle. Et à la fin de la réunion, je lui ai dit, écoute, demande un entretien. Il faut que tu passes à l'église. Il faut qu'on discute pour comprendre pourquoi il y a eu cette manifestation. Et quand je reçois la jeune sœur à l'église, je lui pose des questions sur sa vie spirituelle. Elle me dit, lorsque je prie, Jésus m'apparaît et puis Jésus et moi, on fait l'amour. J'ai dit, my God. J'ai dit, tu le vois? Elle dit, oui, je le vois. Je lui dis, et ça t'arrive combien de fois comme ça, généralement? Elle dit, presque tout le temps quand je prie, et même le dimanche quand je prie, on est tous là, Jésus m'apparaît, et tout à coup, je commence à ressentir des désirs sexuels, tout ça, et il vient sur moi, et il commence à faire des choses. Pasteur, je n'avais jamais entendu une chose aussi terrible, aussi blasphématoire, aussi insensée. Mm-hmm. Et je lui ai fait comprendre que c'était une séduction spirituelle, que cette personne qu'elle voyait, c'était un démon, ce n'était pas Jésus. Maintenant, je ne dis pas forcément qu'elle a eu peut-être des rapports sexuels avec le démon ou pas, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais cette sœur vivait quelque chose où elle croyait que c'était une expérience spirituelle authentique, alors que c'était des esprits mauvais qui l'oppressaient.
Elle croyait que c'était correct.
Elle croyait que c'était correct. Ce qui est terrible, c'est que lorsque je lui ai dit que ce n'était pas correct, en fait, elle a quitté l'église.
Wow.
Elle a quitté l'église. Et cette expérience m'a toujours marqué. Et quand vous voyez cette fille-là prier, elle avait l'air tellement pieuse. Elle avait l'air tellement... Oh, vous voyez, vous vous dites, non, mais celle-là, elle voit Dieu. Mais elle vivait une séduction spirituelle terrible qu'il ait éloigné de la maison de Dieu. Et je ne pense même pas qu'elle soit encore chrétienne aujourd'hui.
Wow!
Terrible, terrible.
Une chose que tu mentionnais, en fait, pasteur Alain, c'est l'importance, en fait, de nos pasteurs.
Mmh.
Et l'humilité aussi. Hein?
L'humilité
mmh. d'écouter les conseils. Parce que les pasteurs ne sont pas là pour contrôler les vies mmh. et dominer.
Mmh.
Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent toujours que les pasteurs sont là pour empêcher le chrétien mmh. d'être heureux.
Mmh.
Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, celui qui a répondu à l'appel de Dieu mmh. et qui est devenu pasteur,
mmh.
et en fait, c'est une réponse à l'appel de Dieu.
C'est ça.
Et Dieu veut notre bien.
Mmh.
Absolument. Et le pasteur qui a le cœur de Dieu, il veut le bien de la personne. Donc, mmh. quand le pasteur intervient dans une vie mmh. pour amener une correction, un encouragement, un conseil, c'est pour le bien de la personne. Mmh. Ce n'est pas pour supprimer le plaisir de la vie
Exactement.
Chrétienne. Et mmh. puis, si cette femme avait été sur le chemin de l'humilité, elle aurait mmh. dit, OK, pasteur Alain, j'ai été séduite.
Mmh.
Et puis, elle aurait pu aussi demander d'être délivrée
d'être
de ses oppressions, peu mmh. importe.
Mmh.
Mais c'est triste, en fait, si... On ne marche pas dans l'humilité.
Mmh. C'est la troisième catégorie de personnes, justement, qui peut être séduite par ce phénomène. Ce sont des personnes orgueilleuses. Elles viennent à l'église, mais elles sont orgueilleuses. Elles ne sont pas obéissantes. Il faut quand même se rappeler que la Bible nous dit que la rébellion équivaut à de la divination, quand
c'est
même. Hein?
Et la divination, c'est la sorcellerie.
Et la divination, c'est la sorcellerie. Hein?
Mm-hmm.
Et il faut que certains chrétiens qui vivent dans l'orgueil comprennent que ça les amènera certainement à la séduction spirituelle. D'ailleurs, c'est ce que Lucifer a eu. Il est allé jusqu'à penser qu'il pouvait détrôner le Tout-Puissant.
Mm-hmm.
Dieu pouvait le faire disparaître en un claquement de doigts. Arriver jusqu'à se convaincre qu'il peut renverser Dieu, je pense qu'il faut véritablement être séduit et être orgueilleux. C'est pour ça que les deux vont de pair parfois.
Mm-hmm.
Vous allez croiser dans l'église des chrétiens, et c'est le genre de chrétien, parfois, non, le Saint-Esprit ne m'a pas dit de faire ça. Vous lui dites de faire une chose simple à l'église, ils viennent te dire, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. La Bible dit donc, je ne vais pas le faire, pasteur. Parfois, c'est une chose où tu n'as pas besoin forcément d'entendre la conviction du Saint-Esprit. Frère, est-ce que tu peux prendre une directive du Saint-Esprit? Frère, est-ce que tu peux prendre les haut-parleurs et aller les déposer à tel endroit? Non, il faut que le Saint-Esprit me parle avant. Et ces personnes peuvent être aussi séduites et passer à côté.
Mm-hmm. Mm. L'humilité nous garde de beaucoup de choses.
Amen. Amen.
Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité. Il
Amen.
Va nous élever au temps convenable.
Amen.
Mais si on s'élève quand
Amen.
Ce n'est pas le temps, ben, ce n'est jamais le temps de s'élever soi-même.
Amen.
Mais si on cherche l'élévation plutôt que l'humilité, c'est dangereux. Et c'est très important ce que tu dis, parce que si quelqu'un, admettons, une personne est orgueilleuse, là, et puis elle refuse même de se soumettre à une autorité spirituelle, bien là, elle peut vivre plus tard dans un monde totalement artificiel.
Exactement.
Elle peut aussi ne pas entendre la voix de Dieu.
Exactement,
n'est-ce pas?
Ça, c'est
vrai. C'est comme, on refuse le chemin de Dieu, je refuse l'humilité, je dénigre mes autorités spirituelles, je vis dans le mépris et tout ça. Cette personne peut après un certain moment, vivent dans un monde de confusion.
C'est vrai.
C'est la confusion totale. Mmh. Et puis, la personne cherche la volonté de Dieu, mais puisqu'elle ne revient pas au départ, un lieu de repentance,
exactement
où j'ai été, en fait, dans l'orgueil, bien, en fait, je passe à côté de tellement de choses et je vis malheureux.
C'est exact.
Le royaume de Dieu implique la justice, la paix et la joie. Si je suis dans ma propre justice, je pense que je suis en paix, mais c'est une fausse paix, mais je ne suis pas joyeux.
C'est ça.
Si je ne suis pas joyeux, c'est un signe qu'il y a quelque chose d'anormal dans ma vie.
Exactement.
Les trois ingrédients.
Amen.
Plusieurs chrétiens ont simplement la justice, dans le sens qu'ils disent, bien, j'ai été pardonné, je suis juste. Et souvent, ces gens-là sont dans leur propre justice.
C'est vrai.
Donc, on a tous prêché la justice. Amen. Oui, on peut être pardonné. La justice, mais ensuite la paix. Si je ne vis pas dans une paix dans mon cœur, mais je suis confus, tourmenté constamment,
c'est vrai.
Je ne serai pas dans la joie.
C'est ça.
Donc, il y a un désordre spirituel dans tout ça. Et on revient à une question d'humilité. Est-ce que j'ai pu m'humilier? Et est-ce que j'ai accepté l'influence spirituelle de mes leaders spirituels?
C'est exactement ça. Pasteur Tcha a parlé tout à l'heure. Excusez-moi. Pasteur Tcha a parlé tout à l'heure de la confusion. Il y a un des prophètes qui appelle cela l'esprit de vertige. Et je pourrais donner la référence de demain. L'esprit de vertige. Quand les gens sont dans la confusion totale, ils perdent le nord, ils ne savent plus là où ils sont. Et quand ils ne savent plus là où ils sont, la vérité, ils ne peuvent même plus accomplir le plan de Dieu pour leur vie.
Wow.
Et si tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie, ça veut dire que tu es dans la volonté permissive de Dieu.
Ouais.
Et si tu es dans la volonté permissive de Dieu, ça veut dire que tu es en danger. Parce que Dieu veut que nous soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Voyez-vous, on peut avoir un chrétien qui veut vraiment marcher dans la volonté de Dieu. Il veut faire plaisir au Seigneur. Mais s'il est orgueilleux et il n'est pas obéissant, il va finir par se retrouver dans la confusion. Et s'il se retrouve dans la confusion, il finira par se retrouver hors de la volonté de Dieu. Donc, ça ne sert à rien de développer un esprit indépendant où on se dit, non, moi, j'écoute rien que Dieu, je n'écoute pas le pasteur, je n'écoute pas mes responsables spirituels. Mm-hmm. Il ne faut pas confondre l'autonomie avec l'indépendance, en fait. Dieu nous demande d'être autonomes dans notre vie spirituelle, mais nous sommes, voilà, responsables, mais nous sommes dépendants de notre église locale. On dépend aussi d'un corps, parce que nous faisons partie d'un corps. On oublie souvent que la croix a deux barres. Il y a la barre verticale qui représente la relation avec Dieu et la barre horizontale qui représente la relation avec les autres. Et les orgueilleux, parfois, ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin des autres, ils ont besoin de l'église locale, ils ont besoin de leur leader pour les orienter sur le bon chemin.
Une chose très importante aussi, je pense, pour aider les personnes à la maison. On a parlé de séduction spirituelle. Quelqu'un qui est séduit, bien, il ne croit pas qu'il est séduit.
Il ne croit pas qu'il est séduit, il ne le voit même pas. Hein.
Et l'orgueilleux c'est ne se voit pas comme orgueilleux.
C'est ça, exactement.
L'orgueilleux ne se voit pas comme orgueilleux. Donc, comment aider cette personne? Bien, je pense qu'une des façons qu'on peut, nous, en tout cas, aider nos amis à la maison, c'est qu'il faut juste regarder un petit peu dans le passé. Est-ce qu'un pattern, en français, on dit comment, des cycles peut-être.
D'accord.
Est-ce que vous vivez dans des cycles qui se reproduisent constamment? Par exemple, on parle de pasteur, par exemple, juste le rôle d'un conseiller spirituel qui veut le bien de sa brebis. Est-ce que vous avez été heureux dans vos églises passées? Est-ce que vous avez vécu des belles expériences? Peut-être que vous avez vécu une seule église, gloire à Dieu, vous êtes toujours là. Amen, ça c'est génial. Mais si, admettons, vous avez du mal à être heureux dans une église, mais vous devez toujours changer parce que vous croyez que vous connaissez toujours plus que le pasteur, vous êtes plus intelligent, meilleur, bref, vous avez votre façon de croire. Donc, vous êtes dans votre orgueil et aujourd'hui, vous êtes malheureux. Il y a peut-être, si vous êtes malheureux aujourd'hui, vous devez juste simplement voir, est-ce que cette situation-là, est-ce que je vis constamment la même chose partout? Et ça peut nous révéler notre état,
un signe.
N'est-ce pas?
Ça peut être un signe, pasteur. Mais tu sais, pasteur, certaines personnes, vous pouvez même leur dire qu'elles sont orgueilleuses, prendre du temps avec elles pour leur expliquer même le cycle, et elles ne comprennent pas, en fait. Parce que la séduction spirituelle, c'est quelque chose de très, très puissant. Et le Seigneur va dire, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Parfois, pour que quelqu'un d'orgueilleux se réveille, il faut le brisement. Il faut la chute, parfois. Donc, quand la personne vit quelque chose, parfois, de catastrophique, de terrible. Cette chose va lui mettre une sérieuse claque. À partir de ce moment-là, il se réveille parce qu'il se rend compte que il a mal agi, en fait. Parce que parfois, l'orgueil, il faut un brisement, il faut quelque chose de choquant. On peut ne pas arriver à ce point-là, en fait. Mmh. On peut, dès le début, avoir un cœur repentant,
oui,
et sentir les signes commencer à se mettre en place. Et à partir de ce moment-là, on se remet en question. Plus longtemps on attend, plus on est séduit et plus cet esprit-là a de la puissance sur notre vie. Et parfois, pour nous sortir de là, il faut un brisement, il faut une situation qui va sérieusement nous faire mal. Mais n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on puisse se corriger à travers sa parole. Amen.
La bonne nouvelle, comme tu dis, Pasteur Alain, on n'est pas obligé d'attendre.
On n'est pas obligé d'attendre là.
On peut vraiment faire mourir notre chair tout de suite et réaliser, si je suis sur un chemin orgueilleux, si je suis moi-même orgueilleux, on peut se repentir. Moi, je ne comprends pas des fois, j'ai eu des situations dans mon bureau avec des personnes, puis c'était clairement une situation de péché. Et je disais, tu peux te repentir, mais la personne cherchait à se justifier. Encore, c'est de l'orgueil.
La justification, c'est encore.
C'est ça. Mais c'est tellement plus facile, je dis, j'avoue, et je me détourne du mal, j'avoue, parce que nous sommes tous, avant de connaître Christ, nous sommes tous pécheurs, mais nous avons tous commis des péchés.
C'est ça.
Donc, je peux dire, je me repens et je vous demande pardon, je vous demande pardon. Et là, on tourne la page. Et
exactement.
Puis, quelqu'un qui est bien entouré avec des hommes et des femmes de Dieu remplis d'amour vont pardonner la personne, vont donner une seconde chance. Mais si on veut à tout prix avoir raison puis on refuse de se repentir, on reste sur le chemin qui est vraiment à l'encontre de la volonté de Dieu.
Exactement.
Mais aujourd'hui, Pasteur Alain, il y a des gens qui réalisent peut-être à la maison... J'ai commis des péchés, je suis dans l'orgueil. Vous pouvez céder votre volonté aujourd'hui, dire « Seigneur, je vais me repentir ». Et ensuite, cette dimension d'aveuglement, c'est une dimension spirituelle d'aveuglement, va disparaître, n'est-ce pas?
Amen.
Est-ce que tu peux prier pour les personnes repentantes aujourd'hui?
Amen.
Et chasser ce qui a besoin d'être chassé.
Amen. Éternel, merci pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Père, merci pour toutes les personnes qui sont maintenant sous l'influence de ce programme par le Saint-Esprit.
Amen.
Au nom puissant de Jésus, je viens prendre autorité sur tout esprit de séduction spirituelle et sur tout esprit d'aveuglement spirituel.
Amen.
Éternel, merci parce que tu délivres chacune des personnes qui nous regardent maintenant. Père éternel, merci parce que ta main est maintenant sur les personnes repentantes et le joug de l'orgueil est brisé de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les cycles de confusion s'arrêtent dans leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant qu'ils voient clair dans le Seigneur. Merci mon Père et mon Dieu parce qu'ils retrouvent le droit chemin, le chemin de ta parole, le chemin de ta vérité. Merci parce que chacun d'eux entend l'Esprit de Dieu leur montrer le chemin à suivre. Je déclare au nom puissant de Jésus que les paroles que nous avons proclamées dans cette émission restent dans leur cœur de telle sorte qu'ils ne retombent pas dans le même piège.
Amen.
Au nom de Jésus. Gloire Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Oui, le royaume de Dieu consiste la justice, la paix et la joie. Et
Amen.
C'est ça que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous soyez heureux. Gloire à Dieu. Si vous êtes heureux, bien vous allez être rayonnant de joie.
Amen.
Alléluia, c'est merveilleux. Merci, Pasteur Alain. Nous
Merci,
avons
Pasteur
été
Joël.
Bénis.
Ah, moi
Plusieurs
aussi.
Personnes dans la séduction, vous avez été affranchis aujourd'hui. Et écrivez-nous, dites-moi, Pasteur Joël, j'ai vécu une délivrance aujourd'hui. Visitez le site web emctv.com et dites-moi, en écrivant à videfoi@emctv.com, ce que Dieu a fait dans votre vie.
Amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Merci Amen. D'avoir été là aussi. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.